L'affaire Nolibé, le calvaire d'un père, épisode 4. Une décennie, c'est le temps qu'il a fallu aux enquêteurs pour retrouver l'assassin de Caroline Nolibé. 10 ans pendant lesquels le père de la victime a tout enduré. La perte tragique de sa fille et l'humiliation publique. Il n'y croyait plus, l'affaire était classée. Mais en 2001, par le plus grand des hasards, un bout de papier est retrouvé. Il y est écrit « J'ai tué la fille Nolibé ». Son auteur, Philippe Gondouze. Le soir du meurtre, il vivait à une centaine de mètres du lieu du crime. Personne n'avait pensé à lui. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans le petit village de Clairac, la rumeur s'est tue. Philippe Gondouze a tout avoué, Claude Nolibé n'est donc pas l'assassin de sa fille. Claude, ce qui le fait tenir depuis 10 ans, c'est l'espoir que l'enquête aboutisse, qu'il comprenne enfin ce qu'il s'est passé le soir du 31 juillet 1991, qu'il voit en face de lui l'homme qui lui a pris sa fille et volé sa vie. Eh bien ce moment est enfin arrivé. Le procès s'ouvre le 10 janvier 2004, 12 ans après le meurtre de Caroline Nolibé à la cour d'assises d'Agen. Claude arrive, accompagné de son avocat, le même depuis 10 ans, maître Michel Gonel. Face à eux, l'imposant bâtiment en pierre beige, ils montent ensemble solennellement la vingtaine de marches du palais de justice. Claude attend une réhabilitation totale. 3 jours d'audience sont prévus pour juger l'accusé, Philippe Gondouze. 3 jours pour comprendre les ratés de l'enquête. 3 jours nécessaires pour avoir une réponse à la question que Claude se pose depuis 13 ans. Pourquoi ? Pourquoi Gondouze a tué sa fille ? Dans la salle, tout en longueur, du palais de justice, Philippe Gondouze s'installe tout sourire sur le banc en bois. Il semble totalement déconnecté, comme s'il ne comprenait pas vraiment sa présence dans le box des accusés. Le visage rond, le regard doux, il ne ressemble en rien à un tueur sanguinaire. Il est presque attendrissant. Il s'assoit, jette un regard dans la salle, cherche des yeux les gens qu'il connaît, fait coucou à sa famille. C'est un enfant venu à son procès comme on irait au spectacle. À la barre, ses proches succèdent pour le raconter. Les accompagnants du centre d'hébergement sont unanimes. Philippe est un gentil, incapable de faire du mal à une mouche. Ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Sa mère, à la barre, raconte avoir fait tout son possible pour que son fils handicapé mental depuis la naissance ne soit pas différent. Philippe a eu une enfance heureuse. Il a grandi avec ses frères, sa sœur, jusqu'à ses 17 ans, avant d'être placé dans le foyer pour handicapés à Clairac. Son père, un ancien harki, est décédé. L'un de ses frères s'est suicidé. Il n'a pas toujours bien vécu la séparation avec sa famille, mais interrogé à ce sujet, il préfère rester silencieux. Ses frères, Ali et Hamid, doutent de sa culpabilité. Philippe n'a jamais montré aucun signe d'agressivité. Alors comment aurait-il pu s'en prendre à une jeune fille avec un couteau ? Une petite amie de l'accusé, Pierrette, raconte leur relation. Une vie normale où les deux tourtereaux se retrouvaient pour regarder la télé. Une description à l'opposé de ce que décrit sa première victime de 85. La jeune fille, laissée pour morte après avoir croisé le chemin de Philippe, témoigne courageusement. Ce jour-là, le 12 novembre 85, elle s'est vue mourir. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Dans une cour d'assises, vous le savez maintenant, on cherche à savoir qui est la personne sur le banc des accusés. Mais les experts psy sont face à une énigme. Comment cet homme peut-il être à la fois si paisible et si brutal ? Pourquoi passe-t-il à l'acte ? Que cherche-t-il ? Il dit que des pulsions de colère le mènent à la violence, des pulsions nées d'un sentiment de rejet, de faiblesse. Mais a-t-il les capacités mentales de les contrôler ? à toutes les questions qui lui sont posées, Philippe botte en touche. Il ne sait pas, il ne se souvient pas. Le procès pourrait basculer. En raison de son handicap, Philippe pourrait être acquitté. Rien n'est joué. Côté partie civile, Claude Nolibé serre les dents. Ce procès, c'est aussi celui de l'erreur judiciaire. Un système qui s'est acharné sur la piste du père infanticide. La procédure infligée à Claude Nolibé est ignoble et a donné cours au pire ragot. À peine venait-il d'enterrer sa fille qu'on le pointait du doigt, l'accusant d'inceste, de jalousie et de meurtre. Imaginez la douleur de ce père. Face au juge, Claude raconte ses 12 dernières années. Fleurir la tombe de sa fille en cachette pour ne pas être montré du doigt. Les passants qui changent de trottoir et tournent le regard. Les proches qui, un à un, lui ont tourné le dos. La perte de son travail, les nuits sans dormir, les anxiolytiques. Claude a aujourd'hui 64 ans, mais c'est déjà un vieillard épuisé. Il a vécu des années de souffrance qui auraient pourtant pu être évitées. Vient la fin des débats et l'heure des réquisitions. À l'encontre de Philippe Gandouze, l'avocat général Maître André Dag, qui défend les intérêts de la société, requiert une peine de 13 à 15 ans de prison en raison de l'état mental de l'accusé. André Dag se lève et se tourne vers Claude Nolibé.
Parfois, les victimes sont confrontées à la machine judiciaire implacable. Que penser d'un homme privé de son statut de victime au point d'en faire un coupable ? J'espère que vous allez officialiser l'innocence proclamée de Claude Nolibé, jeté en pâture à l'opinion publique. Je présente les excuses de la justice à cet homme victime d'une véritable erreur judiciaire.
Un moment rarissime devant une cour d'assises. Philippe Gandouze est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre avec préméditation. À l'énoncé du verdict, il ne réagit pas. Claude Nolibé est enfin totalement blanchi. 6 ans plus tard, en mai 2010, la justice a donc reconnu officiellement son erreur d'avoir écroué, sans aucune raison, pendant 45 jours, Claude Nolibé. Le père de Caroline a été indemnisé à hauteur de 50 000 euros. Une somme symbolique qui ne répare rien. Autour de lui, il ne reste plus que l'un de ses fils, l'autre a coupé les ponts, et le souvenir douloureux d'une vie qui s'est éteinte le 31 juillet 1991. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison. Elle a été écrite par Capucine Lebeau. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous sommes ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.